Vibration, vibrez avec nous.
Vibration. Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur Vibration.
Des fois, quand on regarde l'actu, on a l'impression qu'il n'y a que des infos négatives. Et si, pour une fois, on s'intéressait aux infos positives? On va interviewer, là, aujourd'hui, Catherine Testa, cofondatrice du site l'optimisme.com.
Là, c'est vraiment trajectoire de vie. Vous devez avoir à peu près mon âge, la trentaine, non?
37.
37?
36.
Donc, j'imagine que vous n'avez pas fait ça toute votre vie.
Absolument pas.
Je veux savoir ce qui s'est passé pour qu'un jour, vous ayez envie de créer l'optimisme.com.
Bah c'est tout simplement qu'à un moment donné, moi j'ai vécu aux US pendant très longtemps et je me suis rendu compte que là-bas, on avait envie d'agir. On était baigné dans de l'optimisme, parfois un peu trop d'ailleurs, et qu'en France, quand je revenais en France, on ne voyait que ce qui n'allait pas et de ne voir que ce qui ne va pas, on n'ose plus agir. Et je me suis dit qu'il fallait absolument mettre en avant les initiatives positives dans la société, qu'on se soit dans le milieu du travail, dans l'éducation, dans la santé, afin de donner aux autres l'envie eux-mêmes d'agir et d'être un peu proactifs.
D'accord. Vous faisiez quoi avant de faire ça, du coup?
Alors, j'ai travaillé des années dans le développement durable, dans le domaine du développement durable. Du coup, quand on travaille dans le domaine du développement durable, on se rend compte de toutes les catastrophes qu'on peut engendrer, mais l'action, elle est individuelle. Et j'avais envie de montrer, en fait, qu'on pouvait agir.
Alors, du coup, l'optimisme.com, il existe depuis?
Depuis 2016.
Ah oui, ça fait un petit moment.
Janvier 2016.
Ok, et ça marche bien du coup, c'est...
Ben aujourd'hui, on est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes et on travaille beaucoup aussi dans le milieu de l'entreprise, in fine, parce que il faut essaimer de l'optimisme souvent en entreprise.
J'imagine. Alors donc du coup, là découle le club de l'optimisme. Alors qu'est-ce que ce club de l'optimisme?
Alors en fait, on s'était rendu compte qu'il existait des clubs de sport pour prendre soin de sa santé, en l'occurrence, et à un moment donné, on se rendait compte que les gens, ils avaient aussi besoin de prendre soin de leur morale. Du coup, sur un peu le principe d'une salle de sport, on s'est dit qu'on allait créer un club de l'optimisme afin de faire en sorte que les gens échangent et le moyen de s'inspirer pour booster en fait leur optimisme au quotidien. Donc comment ça fonctionne, c'est que 2 à 3, 4 fois par mois, on organise des ateliers où les gens peuvent venir et où ils vont être coachés par des personnes qui les aident à prendre la parole en fait, par de l'impro, par des spécialistes de la psychologie positive, etc. et qui pendant 2 heures, vont ressortir un peu boostés en optimisme en se disant « moi aussi, je peux agir, je peux faire quelque chose, en fait. »
Ok, ça, c'est plutôt une bonne idée. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi des trucs, peut-être du yoga, des choses comme ça, non?
On va mettre... En fait, aujourd'hui, il y a un peu ce trip du yoga. Tout le monde va faire du yoga. Mais il n'y a pas que le yoga, en fait, pour aller mieux. En fait, et du coup, notre enjeu, c'est de mixer en fait les disciplines pour créer une sorte de parcours qui fait à la fin que les gens ont expérimenté des choses qui vont leur avoir permis de gagner en confiance en eux. Donc, il y a du yoga, il y a de la sophro, il y a de l'improvisation, il y a des techniques de théâtre, du stand-up, etc., qui sont des outils en fait pour s'outiller et s'armer en fait face à un pessimisme un peu ambiant dans la société.
Et oui. Pourquoi on est aussi pessimiste? Qu'est-ce qui va pas?
Parce qu'on s'accorde pas de temps pour soi, on s'accorde pas le temps de la prise de recul, en fait. On est baigné dans une société qui est contraignante, où tout va pas forcément bien, que ce soit sur notre parcours pro, sur notre parcours perso, on a tous des couacs de vie. Et on s'accorde pas le temps d'essayer de voir un peu les choses différemment, et on n'apprend pas la confiance en soi quand on est gamin. On nous arme pas en fait à faire face à tous ces changements permanents, et de fait, à un moment donné, on subit. Et on est un peu dans la passivité, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer son smartphone et on va aller regarder sur les réseaux sociaux, on va critiquer. Mais c'est pas constructif, en fait, on perd de l'énergie. Et à un moment donné, faut la regagner, cette énergie. Et on prenait du temps pour, à un moment donné, gagner en élégance. Et à un moment donné, faut aussi regagner en énergie et en confiance et en morale, en fait.
Bah carrément. Et ça serait quoi les clés au quotidien? Par exemple, si je veux avoir toute la journée, essayer de pas mettre justement la tête dans le guidon, tout ça, ça serait quoi les clés au quotidien?
Prendre du recul. En fait, et avoir un peu de discernement. La société va pas si mal. Quand vous regardez autour de vous, vous avez pas que des mecs qui sont en train de couper la jambe de leur femme. Vous voyez, quand vous regardez tous les faits divers sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'il y a rien qui va. Du coup, avoir du discernement par rapport à...
Hyundai Kona, c'est ce que vous attendez d'un SUV aujourd'hui. Un look audacieux, du confort, évidemment. Une expérience de conduite unique, de l'espace à bord, bien sûr.
Gamme Hyundai Kona, essence hybride ou électrique, à partir de 199 € par mois.
Kona Intuitive, LLD, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 650 €, puis 36 loyers de 199 € hors assurance facultative. Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin, si accord HCF. Voir Hyundai.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Portes ouvertes Hyundai Orléans du 13 au 15 juin, 12 rue Molière et sur sossereau.com.
Elle s'est donné les moyens de ça. Et c'est ça que je rencontre en fait au quotidien, et que ce soit des entrepreneurs qui lancent, hier j'étais avec Comte de la Vie qui est une marque de champagne qui a créé un champagne et donne 30% de leur de toutes les ventes de champagne pour sauver la planète. Donc ils ont créé Toast for the Planet, que ce soit une famille qui s'engage parce que c'est la maman et la fille, que ce soit une infirmière qui s'engage, que ce soit sur le territoire quelqu'un qui crée quelque chose pour aider les demandeurs d'emploi. Typiquement, vous voyez, il y a plein d'actions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Par contre, il y a des gens qui, à un moment donné, se sont dit « Ok, qu'est-ce que je fais, moi, pour participer, finalement, aujourd'hui, à ma société ?»
Oui, les gens qui se bougent, quoi.
Qui se bougent, en fait. Et c'est dur de se bouger, parce qu'on nous a appris que si on n'avait pas le bon diplôme, que si on n'avait pas la bonne formation, que si on était une nana, que si on était un mec trop vieux, trop jeune, trop gros, trop moche, enfin, voilà, on vous a enfermé dans des clichés, c'était pas possible de réussir. Bah si, c'est possible.
Oui,
mais il faut faire le premier petit pas.
Merci beaucoup Catherine Testa. Je vous rappelle le site l'optimisme.com pour prendre une bonne dose d'optimisme et de courage si vous avez envie de vous lancer dans un projet.
Vibration, vibrez avec nous.
La nuit sur Vibration. On passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
Marc Vériotte est aujourd'hui conférencier en entreprise. Il distille ses conseils en matière de gestion du stress. Le stress, c'est une émotion qu'il connaît, qu'il a su apprivoiser. Entre 1998 et 2018, il a fait partie du RAID, l'unité d'élite de la police. Et sa spécialité, c'était l'effraction pour permettre à la colonne d'assaut d'intervenir. Marc Vériotte, quel moment vous a le plus marqué pendant ces 20 ans?
Les dernières interventions de 2012, l'affaire Mohamed Merah, mais aussi toutes les affaires antiterroristes de 2015, l'affaire Mohamed Merah le 21 mars 2012, parce que j'y ai été blessé de 2 balles, une balle dans l'épaule et une balle dans le casque, qui a fait hémorragie cérébrale, donc forcément cette intervention me touche, mais aussi l'hypercachère. J'ai participé à ouvrir la porte à l'explosif de la porte de service de l'hypercachère, une porte que tout le monde pensait qu'on n'arriverait pas à ouvrir parce que elle était particulièrement renforcée pour résister aux cambrioleurs. On a réussi à l'ouvrir et donc ça a donné le top intervention et ça a participé à libérer les 26 otages. Donc ça aussi, c'est marquant. Bien sûr aussi les interventions du 13 novembre. Moi, je suis intervenu sur un immeuble à côté du bar La Bonne Bière où il y avait 5 morts. Voilà, c'est les 2 années fortes, c'était 2012 et 2015 en effet.
Comment se sent-on avant un assaut? Est-ce qu'on est anxieux ou complètement concentré sur sa tâche?
On est particulièrement concentré. Parce qu'en fait, on sait par expérience et l'entraînement nous amène à ça. On sait que on va avoir besoin de 100% de notre cerveau pour nous confronter à ces affaires extrêmes et que si jamais on laisse 10-20% de notre cerveau aller vers le passé, vers notre famille, vers nos autres problèmes, c'est 20% qui vont nous manquer. Donc le but du jeu, c'est de se concentrer uniquement sur les points importants qui vont nous renseigner sur la tâche à effectuer. Et tout le reste, eh bien, on s'en décharge au briefing et au débriefing. On a des émotions. La peur de prendre des balles, on doit la garder toujours parce que c'est elle qui nous fait lever le bouclier, par exemple. Mais par contre, on se décharge de la majorité des autres émotions. On doit faire notre travail de la même manière, même si on a 1 mort à enjamber, même si on a 10 morts à enjamber, même si on a 100 morts à enjamber, parce que ces informations-là sont pas vraiment importantes dans la tâche qu'on a à gérer. Alors bien sûr, ça pose quand même des problèmes parce que même si on arrive à mettre de côté tout ça, notre cerveau l'enregistre quand même et on risque de le payer un petit peu plus tard.
Et justement, quelles conséquences ces expériences extrêmement fortes ont-elles à long terme sur vous et vos collègues?
Tous, on est attentifs à ça parce que autour de nous, on a des anciens qui ont subi des dépressions nerveuses 10 ans après une intervention difficile. Alors bien sûr, c'est assez difficile à maîtriser parce que tous ces problèmes-là sont un petit peu multicausal. Il n'y a pas que l'intervention qui fait que tu risques d'avoir un coup de fatigue. Il y a aussi quand ça s'ajoute à des problèmes personnels ou à des problèmes professionnels. Bon, cependant, étant donné qu'on a l'expérience de nos anciens qui nous disent attention, il y a un effet cumul. Un gros stress peut faire du mal, mais également aussi le cumul engendré par les différentes interventions qui s'additionnent, on fait attention à ça. Alors, au cœur de la colonne, la contre-mesure, c'est déjà d'avoir une hétérogénéité dans le groupe. On a des jeunes qui risquent de bugger parce que le stress de la découverte, mais on a aussi des anciens qui, certes, risquent aussi de bugger, mais pour un effet cumul. Mais tous ces différents profils, de gens mariés, de gens célibataires, de gens certes qui viennent faire un enfant, de gens qui ont déjà été blessés une fois, de gens qui n'ont jamais été blessés. Ça fait que le groupe, en fait, puise sa force dans l'hétérogénéité et on ne bug jamais au même moment. Les anciens nous disaient, attention, c'est un service, faut pas y rester plus de 10 ans parce que il y a un effet cumul. Mais tout ça, c'est une caricature. Bon, moi, j'y suis resté 20 ans. Alors quand j'ai un petit moment de moins bien, eh bien, je fais attention, je surveille mon hygiène de vie, j'essaie de me coucher à des heures plus stables. En faisant attention à soi, on évite de plonger.
Quel rapport vous entretenez avec la mort, notamment le fait de pouvoir potentiellement la donner à quelqu'un?
Nous, dès qu'on nous donne une arme dans la police, même avant même d'être au raid, si on a les pieds sur terre, On doit se rendre compte que cette arme-là, on nous la donne pas de manière banale. C'est pas un stylo qu'on vous donne, c'est une arme. Et on sait très bien à quoi ça sert. Donc, on y réfléchit dès ce moment-là. Après, quand on rentre au raid, c'est encore plus caractéristique. Moi, je me souviens, par exemple, de ma première séance de tir, qui était dirigée par celui qui a été obligé d'éliminer Human Bomb en 93. Eh bien, la séance de tir, elle n'a duré que 10 minutes. On a tiré sur des cibles en papier. Il a interrompu la séance et il nous a dit, vous voyez, ce que vous faites là actuellement, c'est du tir sportif. Le tir police, c'est ça. Et hop, il nous a montré des photos ignobles de Maccabées tués par balles avec des crânes explosés, etc. Et il nous a dit, voilà, ça c'est vous si vous tirez en retard. C'est votre camarade si vous tirez en retard. C'est un otage si vous tirez en retard. On sait que on a dans les mains quelque chose de grave, quoi. On sent l'arme, une arme qui pèse 500 grammes dans la vraie vie sur une balance. Nous, dans nos mains, elle pèse beaucoup plus lourd. On sait que les conséquences et les émotions qu'elle porte, tout ça, on y pense avant, parce qu'au cœur de l'action, par contre, faut plus y penser. Si au cœur de l'action, un terroriste vous tire dessus et que vous ne pouvez pas faire autrement que de riposter, il faut pas se poser la question. On tire pas sur un homme, sur une femme, sur un ancien. On tire sur une menace. Et ça, c'est dépourvu d'émotion. C'est purement professionnel.
La mort, vous l'avez frôlée le 21 mars 2012 lors de l'assaut de l'appartement de Mohamed Merah à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cet assaut?
L'intervention a duré 33 heures pour essayer de l'avoir vivant, puisque c'est la procédure habituelle. On a eu un blessé d'entrée de jeu au genou. Au bout de 2h30 d'intervention, j'ai été touché à l'épaule et au casque. J'ai pris la première balle en plein milieu du casque. J'étais à 2,5 mètres environ du terroriste. Et cette balle a été arrêtée par le casque. Ça m'a fait vriller, ça m'a fait basculer. Et heureusement, parce que la deuxième balle qui m'arrivait pleine gorge, finalement m'a frappé l'arrière de l'omoplate. Donc voilà, je suis tombé dans les escaliers. Je me suis vite protégé sous l'escalier parce que il a vidé son chargeur. Les 5 autres balles du chargeur, ce sont des chargeurs de 7. C'est des grosses balles. C'est du 11-43. Il tirait avec des pistolets automatiques que les GIs de la Deuxième Guerre mondiale utilisaient. Ce sont des balles qui tuent très bien parce qu'elles sont très grosses. Mais par contre, leur défaut, c'est que comme elles sont grosses, elles traversent mal les blindages. C'est ça qui m'a sauvé parce que le casque a arrêté la balle. Sous l'escalier, j'ai quand même été frappé par l'enfoncement du casque. C'est ça qui a créé une hémorragie cérébrale. Donc j'ai eu un peu un réflexe d'enfant, je sentais que j'étais touché à la tête. Donc j'ai touché mon casque, j'avais confirmation que j'étais blessé. J'ai passé ma main sous le casque en pensant toucher du sang, mais il n'y avait pas de sang. Et tout de suite j'ai été ramené à l'intervention par un opérateur qui a crié « Marco est touché, faut aller le chercher ». Là je me suis dit « mince, ils vont passer devant la zone dangereuse ». Ils vont peut-être eux aussi prendre des balles. Donc j'ai signalé à la radio que j'étais blessé, mais que ça allait relativement bien et que j'allais être capable de m'exfiltrer seul. J'ai été récupéré par les pompiers qui m'ont amené 10 minutes après. J'étais à l'hôpital et je subissais des soins.
Marc Vériot, vous venez de sortir un livre intitulé « Au cœur du raid ». Pourquoi écrire ce livre justement?
Je pense que c'est notre devoir d'ancien de donner des informations aux plus jeunes. Voilà, moi, il y avait une phrase qui m'a toujours un petit peu marqué, c'est « Dans une vie, il faut faire des enfants, planter un arbre et faire un livre ». Voilà, c'est une manière, c'est notre devoir de transmettre les informations. Alors moi, bien sûr, en ayant été 20 ans dans la colonne d'assaut et en ayant connu les années particulièrement denses de 2012-2015, je trouvais que c'était normal de retranscrire un petit peu toutes les connaissances que j'avais apprises dans un livre. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi un petit peu plus de la colère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société de la communication, il y a beaucoup de gens qui disent pas mal de bêtises dans les livres et dans les émissions télé, etc. Hier, un menteur, il mentait à son voisin de droite et son voisin de gauche au bar. Donc, il faisait pas beaucoup de mal. Aujourd'hui, un menteur, il inonde le monde entier de d'âneries en un seul clic sur l'ordinateur. Et moi, je trouvais que les opérateurs d'assaut n'ont pas beaucoup la parole, puisqu'en règle générale, on a la cagoule, et que c'était le moment de faire parler la colonne d'assaut, mes camarades et moi.
Au cœur du raid de Marc Verriot, coécrit avec Karim Ben Ismail et paru aux éditions Les Arènes.
Vibration. Vibrez avec nous.
Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. Comme celle-ci.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 3.
Repenser nos déplacements, quelles alternatives et à quel prix? On évoque certainement ici l'un des points les plus importants de notre transition énergétique dans le domaine des transports. Au-delà des avancées technologiques qui permettent, et on le verra dans un prochain épisode, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, doit-on plus globalement remettre en question nos déplacements? Doit-on revoir notre rapport à l'utilisation de notre véhicule? La question est centrale car elle implique un changement dans notre mode de consommation, voire notre mode de vie, dont l'impact sur le climat est non négligeable. On l'a déjà compris dans cette série sur les nouvelles mobilités, se tourner aujourd'hui vers un véhicule électrique restera, quoi qu'il arrive, une alternative moins polluante que son équivalent thermique. Tout d'abord parce que les batteries sont à ce jour mieux conçues. Et surtout, la question du recyclage n'est plus réellement un sujet comme il pouvait l'être il y a encore quelques années. De nombreuses entreprises du secteur y travaillent et on sait aujourd'hui, par exemple, réparer des batteries en fin de vie ou encore tout simplement les réutiliser dans un domaine tout autre que le déplacement. L'autre point désormais convenu, c'est que les véhicules thermiques sont un désastre environnemental et que malheureusement, le véhicule électrique n'est pas une solution parfaitement merveilleuse pour décarboner nos déplacements. Quoi qu'il arrive, notre modèle de transport est extrêmement polluant, mais est-ce une raison pour baisser les bras et finalement se dire « je vais polluer, dans tous les cas, pourquoi m'embêter ?» Cette finalité est tout à fait compréhensible, d'autant que les alternatives existantes aujourd'hui peuvent faire un petit peu peur d'un point de vue économique. Malgré tout, il existe une multitude de solutions solutions, toutes complémentaires. La seule chose, c'est qu'elles impliquent effectivement toutes de changer notre mode de consommation actuel. C'est ce qu'explique Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique.
Non, très clairement, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être une transformation assez globale qu'il faut mener. La première manière de voir la transition énergétique des transports, c'est de se dire, il faut qu'on change d'énergie, il faut qu'on sorte du pétrole pour passer à d'autres énergies. On a plusieurs options qui sont des options complémentaires. Aucune d'entre elles n'est parfaite. Elles ont toutes des impacts, des freins aussi à leur mise en œuvre. Les quatre grands types d'options qu'on a d'un point de vue énergétique, c'est tout d'abord l'électrique, dont on parle beaucoup, notamment pour la voiture, c'est ce qui va être le plus pertinent. On a aussi l'hydrogène, qui va être un complément à l'électrique. Il a certains défauts par rapport à l'électrique, notamment un coût plus important, notamment plus de besoins énergétiques pour réussir à produire l'hydrogène. Après, on a ensuite, en troisième option, on a également les biocarburants. Donc, ça permet de garder le même type de véhicule qu'aujourd'hui au pétrole, mais de passer à des carburants produits à partir de biomasse, donc à partir de cultures, etc., ou à partir de résidus de cultures, tout ça. Et puis, il y a aussi le biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse. Donc là, ça demande de changer les moteurs. C'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, donc qu'on peut obtenir à partir de plantes ou de résidus de plantes, par exemple.
De nombreuses solutions pour décarboner le plus possible nos déplacements existent donc déjà et sont même pour la plupart déjà largement exploitées. La plus connue à ce jour est évidemment l'alternative du véhicule électrique. Elle devrait même s'imposer dans les années à venir puisque l'Union européenne a voté l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Et surtout parce qu'elle permet, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire ou penser, de faire des économies. La preuve avec Vincent Larnicole de la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Lui possède une Peugeot Yon, une petite citadine électrique qu'il utilise quotidiennement, mais aussi un véhicule thermique pour des déplacements plus longs.
Yon, ça me coûte quasiment rien, il n'y a pas d'entretien. L'électricité, même si ça augmente, ça coûte encore beaucoup moins cher que le pétrole. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je suis passé à l'électrique. On a une voiture qu'on utilise au quotidien. Moi, ma petite citadine, c'est avec elle que je fais le plus de kilomètres. Parce que je suis plus souvent chez moi au boulot qu'en vacances. Donc effectivement, quand je suis en vacances, je vais utiliser ma thermique. Mais finalement, je fais moins de kilomètres avec ma thermique qu'avec ma petite électrique qui a un rayon d'action très limité. Et en termes d'économie, oui, c'est 2000 euros à peu près d'économie par an, quoi.
Christophe Debaune fait aussi partie de la fauve. Lui a décidé de se tourner vers un véhicule électrique plus gros et plus lourd. Mais le constat est le même. Le véhicule électrique est rentable économiquement et permet de faire des trajets qu'on pourrait penser impossibles.
Je me suis rabattu sur une berline de taille correcte, on va dire. Donc forcément, quand on part en vacances, elle est un peu plus remplie. Mais en tout cas, le constat est là, c'est qu'elle me permet aujourd'hui de voyager comme je voyageais avant avec la thermique. Je traverse la France, je vais même un peu plus loin. Je suis même allé jusqu'en Allemagne de l'Est, semaine de l'Est avec, sur un week-end. Pourtant, on m'a dit, non, tu vas mettre une semaine, etc., à faire le voyage, rien que pour y aller. Bah non, en un week-end, j'ai fait l'aller et le retour. Donc voilà, je me pose plus la question. Il faut partir, il faut aller à droite, à gauche, peu importe. Je prends ma voiture et je voyage comme avant finalement. Exception que on essaie de caler les pauses repas, etc., sur un endroit où il y a une borne de recharge rapide. Mais ça va être de moins en moins vrai puisqu'en fait la plupart des stations d'autoroute se sont équipées, donc en fait dès qu'on s'arrêtera, quel que soit l'endroit, il y aura une borne de recharge. Donc effectivement aujourd'hui on s'arrête le temps de manger ou même d'une pause technique, simplement on récupère 100-150 km, le temps de manger, on fait le plein complet. C'est régulier que je dis à ma femme et mes enfants, dépêchez-vous, la voiture est pleine, donc il faut y aller.
Un tel voyage en véhicule électrique est donc par la force des choses plus long et nécessite aussi des pauses très régulières.
Oui effectivement, donc là c'est un cas concret. Il y avait 1150 km aller, 1150 km retour, c'est entre 5 et 6 pauses sur chacun des trajet. En fait, ça va assez vite parce que la sécurité routière, vu qu'on s'arrête toutes les deux heures, et ben effectivement quand on s'arrête toutes les deux heures, voire un petit peu moins, on se rend compte que le voyage est beaucoup plus agréable parce que moins fatigant. Pourtant, c'est vrai que je me forçais avant à pousser et en fait non, c'est pas possible et on se rend compte qu'on retrouve du plaisir à voyager comme ça. Niveau budget. Sur une longue distance comme ça, faut compter à peu près 200 150 euros l'aller-retour, donc les 2300 km. Alors c'est un budget qui se rapproche du thermique pour ce cas-là. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les jours, bah, je recharge chez moi en fait à moins de 2 euros aux 100 km. Donc c'est aussi à prendre en compte dans le calcul. On lit beaucoup d'articles où l'électrique va devenir aussi cher que le thermique, mais on oublie en fait que la plupart des gens qui roulent en électrique recherchent chez eux à un tarif très intéressant.
La solution du véhicule électrique, même sur des trajets longs, semble donc plutôt viable, que ce soit quand on parle des conditions de conduite, de voyage et même d'un point de vue économique. Rentabilité que vient confirmer Aurélien Bigot, mais qu'il tient à nuancer, notamment sur le prix à l'achat du véhicule électrique.
Il y a besoin de soutien de l'État, il y a besoin de soutien des collectivités, que ce soit pour les bornes de recharge, pour faciliter via des aides à l'achat, la conversion aussi du parc de véhicules vers des véhicules à la fois électriques et des véhicules plus sobres aussi, c'est une autre partie de la transition. Après, ce qu'il faut savoir sur le coût, par exemple, des véhicules électriques, c'est qu'aujourd'hui, ils sont plus chers à l'achat, donc ça peut être un vrai défi de transition et du coup, c'est difficile pour une grande partie des ménages pour s'approvisionner sur le marché des véhicules neufs, mais en plus, l'électrique est plus cher à l'achat, mais après, il est beaucoup moins cher à l'usage. Donc, dès aujourd'hui, acheter un véhicule électrique, ça nous assure sur l'ensemble de son cycle de vie. Un véhicule électrique d'une tonne aujourd'hui, ça va être de l'ordre de 20 000 euros à l'achat. Un véhicule électrique de deux tonnes, ça va être de l'ordre de 50 000 euros.
Des véhicules rentables donc, mais dont le prix à l'achat peut en freiner plus d'un.
Oui, c'est clairement un investissement. Après, la grande question dans la transition, c'est aussi une question de réorienter les flux financiers ou les financements. Quelque part, de moins financer les infrastructures qui soutiennent des usages de la voiture, des usages du pétrole, etc. Et puis réorienter ces flux-là vers plutôt le vélo, les transports en commun, la mobilité électrique, le covoiturage, etc. Donc c'est aussi des flux à réorienter vers ce qui est le plus vertueux, en sachant qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de financement public, par exemple pour construire des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, agrandir des aéroports, etc. Les financements qu'il y a pu avoir, les primes sur les carburants, etc. Bien ces choses-là, il faut soit les cibler vers les personnes qui ont le moins de moyens pour qu'elles puissent passer cette période de forte hausse du coût des carburants, c'est problématique de pouvoir d'achat, mais essayer de ne pas trop rendre dépendant finalement à la voiture thermique, etc., mais plutôt financer les alternatives pour faire en sorte qu'on fasse cette transition plutôt que subventionner des usages actuels qui sont pas forcément très favorables pour la transition. Donc c'est un gros enjeu aussi de réussir à réorienter ces flux financiers.
Parmi les véhicules intéressants et abordables, on évoque souvent la Dacia Spring, véhicule pour lequel le cumul des aides gouvernementales peut aller jusqu'à 20 000 euros et qui offre une autonomie assez conséquente, même quand on vit dans des zones rurales où les bornes de recharge peuvent se faire plus rares, d'autant que le réseau est plutôt bien fourni en France, selon Christophe Debaune.
Il existe des outils qui permettent de voir où se situent les bornes, et bien souvent on est surpris de se dire oui, je vais rien trouver là-bas, et ben en fait s'il y a des bornes, faut simplement savoir les trouver. Donc je sais pas s'il y a un coin en France qui est plus difficile qu'un autre. En tout cas, quand on s'éloigne un peu dans la campagne, entre guillemets, bah souvent on habite en maison individuelle, donc on a le point de recharge chez soi. Et aujourd'hui, quand on a un véhicule qui peut faire, on parle de la Dacia Spring pour revenir à elle, qui est un véhicule abordable, on peut faire entre 200-250 km. Donc quand on a un rayon d'action de 200-250 km, peu de gens font cette distance-là tous les jours. Même si c'est un aller-retour, bah on revient chez soi le soir et puis on la rebranche et puis le lendemain matin, elle est prête à repartir.
Mais à l'image de la Dacia Spring, peut-on vraiment continuer de concevoir nos déplacements grâce à des véhicules aussi lourds et dont l'autonomie est aussi conséquente? La question peut sembler bête. Aujourd'hui, on aime l'idée d'avoir un véhicule qui peut nous emmener loin et vite, même si la majorité de nos trajets sont des déplacements du quotidien et qui ne nécessitent donc pas des véhicules objectivement surdimensionnés. C'est d'ailleurs ce que dit Aurélien Bigot.
En fait, on peut pas penser exactement comme ça, penser voiture vraiment à tout faire, y compris des très longs trajets, mais plutôt ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir des véhicules sobres, plus légers, qui ont pas trop d'autonomie au quotidien, et pour les trajets à plus longue distance, et bien autant que possible développer d'autres mobilités que la voiture, aussi typiquement développer davantage le train, développer davantage l'autocar, ou bien davantage covoiturer, ou avoir de l'autopartage, de la location de véhicules pour les quelques trajets à plus longue distance qu'on peut avoir dans l'année, afin de dimensionner plutôt des véhicules petits, légers, qui n'ont pas trop grosses batteries, ce qui limitera à la fois les impacts environnementaux mais aussi le coût financier de ces véhicules électriques. Si on veut que beaucoup plus de personnes aient accès aux véhicules électriques, il faut que ce soit des véhicules plutôt plus légers avec une batterie pas trop surdimensionnée.
pour ce qui est du développement des réseaux de transport en commun, et notamment du train, encore faut-il permettre à quiconque de se rendre en gare ou de rejoindre un lieu depuis une gare. C'est pour ce type d'usage que Frédéric Morier veut développer son projet Avatar Mobilité. L'idée est de proposer des alternatives sobres en ayant recours à des batteries moins impactantes sur l'environnement.
Notre point de vue avec Avatar, c'est que finalement, il est beaucoup plus simple et plus souple de développer des petits modules, des petites cellules qui ont un impact, une consommation équivalente ou moindre qu'un transport en commun. Et que finalement, en multipliant des petits véhicules comme les nôtres, à passagers équivalents et à kilomètres parcourus équivalents, si on est déjà mieux placé en termes de coûts et d'impact que ces bus à hydrogène ou équivalents, c'est pertinent. Mais l'idée n'est pas d'opposer les solutions, bien au contraire. C'est de dire, quand on veut se rendre dans une gare, ou qu'elle soit ferroviaire ou routière, eh bien comment on y va? Est-ce qu'on a des solutions de déplacement sobres, elles aussi? Et donc de proposer, par exemple, des véhicules qui permettent de faire les 10 derniers kilomètres ou les 10 premiers kilomètres pour rejoindre des transports en commun.
Les projets et les propositions ne manquent donc pas entre les véhicules électriques classiques et les projets alternatifs, comme le projet Avatar. Mais les gens sont-ils prêts à faire l'effort financier pour cette transition énergétique? Aurélien Bigot estime que oui, même si quelques efforts sont encore nécessaires.
Les gens sont prêts à faire des efforts à condition qu'ils soient partagés de manière juste, à condition d'avoir aussi des alternatives à disposition. Et c'est vrai que notamment dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, aujourd'hui il y a trop peu d'alternatives qui sont mises à disposition. Et c'est aussi ça le gros enjeu de transition, c'est de faire en sorte de choisir quelles sont les bonnes solutions de mobilité selon les territoires, selon les personnes, selon les capacités que chacun peut avoir. Pour ces zones-là qui ont été trop peu soutenu dans les politiques publiques de mobilité, mais aussi proposer des alternatives aux véhicules thermiques qui dominent aujourd'hui largement.
Donc revoir nos déplacements, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le gouvernement, avec les institutions, doit mettre la main à la poche et faire des propositions, car une transition a forcément un coût et elle ne pourra pas avoir lieu si tout le monde n'y a pas accès. Néanmoins, de nombreuses alternatives existent d'ores et déjà, avec parfois certaines aides déjà déployées. Notons aussi que la barrière de l'autonomie des véhicules électriques sur de longs trajets ne semble plus d'actualité, les constructeurs ayant les moyens aujourd'hui de développer des véhicules assez conséquents pour de plus longues distances, et surtout quand on prend en compte le développement important du réseau de bornes de recharge dans le pays. Voilà pour cette petite réflexion sur notre rapport au déplacement et sur les alternatives déjà existantes, mais vous souhaitez peut-être en savoir un petit peu plus sur les nouvelles mobilités et les possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, rendez-vous sur notre site internet et sur notre application. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de notre série.
Vibration. Vibrez avec nous.
êtes au cœur de la nuit Vibration. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Les jeunes seraient-ils réticents à passer le permis de conduire? C'est du moins ce que laisse penser l'étude de référence Parcoto menée par l'Institut Kantar. Les chiffres annoncent que 69% des 18-24 ans ont le permis en 2022 contre 77% en 2002, soit une baisse de 8% en 20 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. Un coût trop élevé, une prise de conscience environnementale ou encore l'objet voiture qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste du permis de conduire.
Bonjour, Bruno Garancher, je suis président de l'association École de conduite française.
Alors Bruno, vous me disiez qu'il fallait être prudent avec les chiffres et surtout qu'il fallait les nuancer selon la zone géographique où se trouvent en fait les conducteurs.
Le recul de l'âge du permis de conduire est très variable suivant les zones géographiques puisque globalement, si c'est assez vrai dans les zones urbaines où des moyens alternatifs de transport peuvent être utilisés, transport en commun, utilisation du vélo, etc., et des mobilités douces. C'est beaucoup moins vrai dans les zones rurales et dans les villes moyennes, puisque là, la plupart du temps, les jeunes n'ont d'autres moyens que l'accès à l'automobile pour arriver à gérer leurs déplacements du quotidien. Ce qui veut dire que quand on regarde, nous, effectivement, la répartition des âges de passage du permis de conduire, on s'aperçoit que les agences qui sont situées dans ces villes moyennes et dans ces zones rurales restent sur des âges qui sont plus proches de 18 ans, voire qui ont tendance à se rajeunir. Puisque si effectivement on avait vu jusqu'en 2019 apparaître un réel vieillissement qui était probablement dû aussi au fait que pour les familles, la charge du financement du permis de conduire devenait de plus en plus difficile à supporter, les différentes mesures qui ont été prises de façon à favoriser le financement par les familles, que ce soit le permis à 1 euro, la prise en charge partielle de la formation par les centres de formation d'apprentis pour les jeunes qui sont apprentis, l'utilisation du CPF pour les gens qui ont pu travailler comme apprentis par exemple à partir de 16-17 ans, ou simplement qui ont travaillé en job d'été ou en job d'accompagnement de leurs études, on voit nettement un rajeunissement, et je le répète, un surtout sensible dans les zones rurales et villes moyennes.
Alors il y a quand même quelque chose que je note à titre personnel, c'est qu'on remarque que chez les jeunes lycéens, ce n'est plus tellement un objectif comme il pouvait l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que avant, c'était comme le bac, c'est-à-dire il fallait passer le bac et puis le permis. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un désintéressement, qu'il y a des choses qui font que, bah voilà, le permis ne devient plus réellement obligatoire dans l'état d'esprit des jeunes.
Oui, vous avez raison, mais en fait, c'est pas tellement lié à l'utilisation du véhicule, dans le sens où globalement les jeunes conviennent sans aucun problème qu'ils ne peuvent pas se passer de l'auto, c'est plutôt lié aux représentations qu'ils ont vis-à-vis de l'automobile. Les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, passaient aussi le permis de conduire par rapport à l'aspect social de l'automobile. C'est-à-dire que le permis de conduire, vous le disiez assez bien, faisait partie des rites de passage vers la vie adulte et pouvait aussi correspondre à des représentations individuelles qui faisaient que avoir une automobile, entre guillemets, sa place vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, ces représentations effectivement sont en très très net recul, ce qui aussi a des effets plutôt positifs, parce que ça veut dire que si on met moins d'affect dans l'automobile, on risque moins de l'utiliser comme objet de représentation et de pouvoir, entre guillemets, ou de frime. Ça génère aussi des comportements qui sont différents sur la route, mais il n'empêche, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auto reste de toute façon, y compris pour ces jeunes-là, un objet d'obligation, c'est-à-dire que faut bien passer par là, certainement, pour une partie du moins. Sachant qu'il y a encore une partie de la population pour qui accéder à l'automobile est une vraie valorisation. Il y a encore une partie de la population pour qui passer le permis de conduire est accéder pratiquement au seul diplôme qu'ils auront dans leur vie et pour lesquels c'est à représentation forte.
Il y a aussi une évolution dans le choix des formations, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont aussi se tourner vers les boîtes automatiques, donc plutôt les voitures, on va dire, électriques, hybrides. Et puis même, il y en a qui vont littéralement vers les voitures sans permis, par exemple la dernière, là, de Citroën, qui est sorti,
aussi. Ça, c'est un vrai boom qu'on connaît chez les jeunes.
Comme les représentations vis-à-vis de l'auto sont moins fortes. Bah, effectivement, on va aller vers des véhicules qui sont moins porteurs de symboles, plus pratiques, plus aisés à conduire et qui correspondent plus aux mobilités dont on a réellement besoin. Donc, vous citiez l'exemple de l'ANI, on pourrait citer globalement l'exemple de l'ensemble des quadricycles, puisqu'on voit que ce marché du quadricycle léger, qu'on a tendance à appeler voiturette, est en plein boom. Effectivement, aussi bien du côté de l'ANI, qui elle a en plus une caractéristique particulière, c'est que c'est un véhicule électrique, donc elle rentre dans le schéma global de ces mobilités douces et moins polluantes, mais on voit aussi les immatriculations assez considérablement augmentées du côté des constructeurs encore thermiques, je pense à Ligier et Exam par exemple, qui sont les deux constructeurs français importants. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la famille de donner accès à un véhicule 4 roues plus protecteur entre guillemets que le cyclomoteur dès 14 ans. Et puis effectivement, dans cette espèce de continuité où on a commencé déjà à travailler avec un véhicule qui n'avait pas de boîte de vitesse, qui n'avait pas d'embrayage, ça emmène les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la boîte automatique. D'autant plus que les véhicules auxquels vous faisiez référence, c'est-à-dire les électriques et les hybrides, sont tous équipés de boîte automatique pour un certain nombre de raisons. Donc oui, on a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui hésitent très clairement quand ils arrivent à 18 ans pour passer le permis de conduire entre aller directement sur de l'automatique ou passer par la boîte manuelle, sachant quand même que la boîte automatique les intéresse pour des raisons de facilité et pour des raisons de coût, puisque la durée de la formation sur une boîte auto est amputée pratiquement d'un tiers de sa durée, donc derrière génère des économies de coût sur le permis de conduire.
Et est-ce qu'au-delà du contexte économique, il y a aussi le contexte écologique? C'est-à-dire que moi j'ai pris conscience que j'avais envie de moins polluer en roulant avec ma voiture, donc je vais me tourner vers ce type de modèle.
Il y a ça, mais les jeunes se projettent aussi dans l'utilisation de leur véhicule en termes de travail. Et ils savent pertinemment que le véhicule qu'ils auront éventuellement à conduire en termes de travail, je pense aux apprentis par exemple, apprentis du bâtiment, les apprentis qui savent que derrière leur métier sera conditionné par le déplacement, ils vont avoir tendance à malgré tout choisir la boîte manuelle parce qu'ils savent que dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, on n'aura pas forcément de véhicule à boîte automatique. Donc il y a un système d'attirance-répulsion. Alors souvent, ce qu'ils font, et sous notre conseil, c'est qu'ils commencent par la boîte automatique, sachant pertinemment que après 3 mois de permis de conduire, ils peuvent basculer sans avoir d'examen à repasser sur une boîte manuelle, simplement en passant par la formation.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer un petit peu, alors déjà, la différence entre passer son permis dans un contexte urbain et dans un contexte rural, mais aussi passer son permis quand on habite Paris, la capitale, et puis quand on habite la province ou même d'une autre grande métropole de France?
Pour ce qui concerne les agences du groupe ECF, l'âge moyen du permis de conduire sur Paris Grande Couronne se situe aujourd'hui à 23 ans et 7 mois. Pour ce qui concerne une ville comme Bordeaux, on est un petit peu en dessous puisqu'on se situe à 22 ans et 2 mois. Et pour le centre-val de Loire, c'est-à-dire des zones comme Tours, comme Blois, on est sur un âge qui, lui, est descendu à 18 ans et 1 mois. Alors, sachant que dans le 18 ans et 1 mois, faut aussi prendre en compte le fait qu'en province, le nombre de jeunes commençant à apprendre à conduire avant 18 ans est nettement plus important, puisque c'est dans ces zones-là que la conduite accompagnée est la plus développée. La moyenne nationale, toujours dans les entreprises du groupe ECF, se situe aujourd'hui à 18 ans et 9 mois.
Donc finalement, on est plutôt sur des âges assez classiques. C'est vraiment sur la façon dont le permis de conduire est passé que les choses évoluent un petit peu.
Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, zone province, j'ai envie de dire, et Centre-Val de Loire, là-dessus, est complètement représentatif à mon avis. On est sur les zones où les jeunes passent le permis de conduire le plus tôt, à la fois parce que la conduite est accompagnée et la plus représentée. Donc on a des jeunes qui vont passer réellement les épreuves du permis de conduire à 18 ans et un jour, j'ai envie de dire presque, voire même certains le passent avant 18 ans, puisque la loi le tolère aujourd'hui, avec le droit de conduite à 18. Et une région comme Centre-Val de Loire pour le CF, c'est plus de 32% des jeunes qui passent leur permis de conduire en conduite accompagnée. Dans les zones urbaines, d'abord parce que les parents souvent ont moins accès à un véhicule qui leur permet facilement de faire de la conduite accompagnée pour différentes raisons. Là, effectivement, les jeunes passent de leur propre autorité le permis de conduire. C'est vrai à Bordeaux, un peu moins qu'en région parisienne. Et là, on a des âges qui sont un petit peu plus élevés. C'est-à-dire que les jeunes vont commencer à penser au permis de conduire à partir du moment où ils vont penser insertion dans l'entreprise.
Donc pour vous, tant qu'on n'aura pas développé plus les transports en commun, en fait, le permis de conduire et la voiture plus largement resteront le moyen de transport majeur chez les Français?
Aujourd'hui, de toute façon, les moyens de déplacement autres que la voiture ne sont pas suffisants pour gérer la totalité des déplacements privés et professionnels. Donc ça amène effectivement aujourd'hui toujours les jeunes à s'intéresser au permis de conduire à la voiture. Ce qui va évoluer, s'il y a une évolution à venir à terme, c'est pas le fait d'avoir son permis de conduire et de conduire, c'est le fait de pas avoir nécessairement une voiture en propriété pour l'ensemble de nos usages. Si on se projette, et quand on travaille nous avec Renault qui est notre partenaire, quand on se projette sur l'avenir, c'est plutôt le fait que la voiture risque d'être un objet partagé, la voiture risque d'être un objet vers lequel on investit moins, et financièrement et affectivement, mais ça reste encore aujourd'hui l'outil de déplacement le plus utilisé et le plus utilisable pour les déplacements du quotidien dès lors qu'ils ne sont pas couverts par les transports en commun.
Merci Bruno Garancher, président de l'ECF, pour cet éclairage sur les jeunes et le permis de conduire.
Vibration, vibrez avec nous.
When I think about us, it makes me feel kinda homesick.
Can we go back in time?
It's like we're still in the bar and sing along to Oasis.
How should I go?
Lately I feel like I'm so out of touch. Wanna go back when we were drinking so much. I'd say for everything and I just want all those phases.
One, two, three, four.
Cause here
édition.
Get the fuck, let's go.
Quatre dates exceptionnelles.
Quatre villes prêtes à vibrer à nouveau au rythme des plus grands artistes en live.
Le 6 septembre à Sorigny, le 13 à Châteauroux, le 20 à Romorantin et le 27 septembre au Mans.
Des concerts 100% gratuits.
Une ambiance survoltée.
Une tournée à vivre entre amis ou en famille et en musique.
Le Tour Vibration, c'est la plus grande tournée de concerts gratuits de la rentrée. Plus d'infos sur vibration.fr.
Le Tour Vibration, créateur d'émotions.
construit un monde qu'on a abandonné. Il suffit d'une seconde pour que tout parte en fumée. Si le cœur a raison, on a tous les deux tort. J'ai beau tenir les murs, y'a plus rien à sauver. T'as tout donné pour moi. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pour toi. Tu me regardes plus comme avant. Même tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je sais qu'il est trop tard. On peut toujours faire semblant. Mais tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je fronce mes rêves. Je cache mes regrets. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet. Sous, j'cache mes regrets. J'casse les miroirs pour plus voir ton reflet. T'as claqué la porte, t'avais raison, j'ai pas fait ma part. Dans ce jeu, j'suis seul à perdre. J'étais pas celui que tu attendais. Hier encore, t'étais si près de moi. Tous les soirs, j'me dis si seulement. Tout d'un coup, j'me sens si seul au monde. Seul au monde. T'as tout donné. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pour toi. Tu me regardes plus comme avant. Même tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je sais qu'il est trop tard. On peut toujours faire semblant. Mais tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je fronce mes rêves. Sous, je cache mes regrets. Les miroirs pour plus voir ton reflet. J'fronce mes rêves. Sous, j'cache mes regrets. J'casse les miroirs pour plus voir ton reflet.
Vibrez avec nous.
Vibration.